Thomas Bilguin, question rituelle. Vous n'y couperez pas. Dans quel film aimeriez-vous vivre?
Voilà. Bon, moi, j'aime beaucoup la réalité. Et d'ailleurs, il y a un petit truc formidable, c'est que la réalité, on la confond pas avec le cinéma. Les souvenirs, des fois, parfois, on peut se demander si c'était pas des rêves ou des trucs comme ça, mais le cinéma et la réalité, dans les souvenirs, on les confond jamais. Mais bon, la réponse, c'est dans n'importe quel film avec Debra Winger.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Celui qu'elle veut.
Automatique. Celui qu'elle veut, elle choisit.
Très bien. Votre premier choix, précisément, Thomas Bilguin. Ben écoute, je vous propose de l'écouter sans plus attendre avec un quiz lancé comme ça à nos auditeurs. Mais qui chante ?
You live in the morning with everything you want in a little black cage. Alone on the platform, the wind and the rain on the sand. Lonely face. Mother will never understand why you had to leave. For the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Run away, turn away, run away. Turn away, run away. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Pushed around and kicked around, always a lonely boy. You were the one that I talked about around town as they put you down. As hard as they will try to hurt and make you cry.
Ce crooner américain, au nom quand même français, s'appelle Thomas Bilguin.
Eh oui, voilà, non, c'est la musique, c'est le générique de fin
de votre film Les Cowboys en 2015.
En 2015, et bon, je voulais une version de Small Town Boy, qui est une chanson que j'adore.
Jimmy Somerville.
Absolument, mais je voulais une version d'Herman Dune, et en fait, on n'a pas pu la voir pour des tas de raisons. Et
financière
Non, pas financière. Je crois qu'Herman Dune veut jamais donner ses musiques pour des films, pour qu'elles soient utilisées dans les films, et du coup. C'est Raphaël qui avait fait la musique du film et qui m'a dit, bah viens, on l'a fait, on se connaît depuis longtemps avec Raphaël, on chante souvent ensemble et tout ça. Et j'ai dit, bah chante là, tu vas la chanter, s'il te plaît. Et là, il m'a dit, ah non, moi je suis compositeur là. Et je ne suis pas chanteur, donc bah voilà, je me suis retrouvé à la faire. Il y a un ami Raphaël qui est venu faire du banjo, il a produit cette chanson et puis c'est devenu le générique du film. Mais ensuite, vous savez, quand on va présenter un film, on arrive dans la salle 5 minutes avant et donc à chaque fois,
avant j'arrivais avant 5 minutes avant la fin.
Pour animer le débat. Et donc, à chaque fois, la lumière s'éteint et là, tac. No way, j'entendais ma voix, j'en pouvais plus. Jamais plus. Donc, jamais plus. Voilà. Mais je l'ai fait. J'étais ravi de le faire.
Vous êtes donc membre de la SACEM désormais.
Ah, ben ça y est.
Bien sûr. Ouais. Vous touchez régulièrement.
Oh là là.
Bien sûr.
Dis donc, je suis venu en métro. Pour vous dire.
Cette carrière de cinéaste, elle n'est pas mise de côté, j'imagine.
Par rapport à la chanson, vous voulez dire?
Non, oui, non. Non, la chanson, je n'ose plus vous demander.
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai fini un scénario que j'aimerais bien tourner voilà, au début d'année prochaine pour un nouveau film pour moi, mais j'écris, je suis très sollicité pour écrire pour les autres, donc voilà, mais ce qui est super, et donc voilà, j'écris un film là en ce moment sur Paul Watson, qui est un héros de l'écotérisme. terrorisme. Et donc ça voilà, enfin bon, il y a tout le temps des trucs. J'ai écrit des films aux États-Unis et là j'ai écrit un film pour Tom McCarthy qui avait fait Spotlight avec Noé Debré, on a écrit ça. Voilà, bon, et puis on continue un peu à travailler ensemble avec Jacques. On a travaillé sur le Bureau des légendes, là il va réaliser 2 épisodes.
La série.
Voilà, donc on les a écrits ensemble. Moi j'ai en réalisé aussi un petit peu. Enfin bon, voilà, il y a un petit peu quelques tâches à accomplir quand même.
Très bien. Vous avez écrit donc avec Marion Vernoux un film qui s'appelle À boire. À boire. Et je trouve qu'il y a une certaine constante à nous proposer Vive le Pinard par Michel Simon dans Le Vieil Homme et l'Enfant. C'est votre second choix, le film de Claude Berry en 1967. Vous nous en parlez un petit peu de ce Michel Simon mythique.
Oh, j'adore Michel Simon et j'adore l'acteur d'avant-guerre. J'adore le Michel Simon de Panique. Voilà, j'ai vu Circonstances atténuantes de Boyer la semaine dernière que j'adore, où il est un vieux. Juste, il joue toujours plus vieux que son âge
c'est
à l'époque.
Il n'a jamais été
là,
jeune.
Il fait exactement. Et puis, après la guerre, et surtout quand je le connais, moi, enfant, dans ce type de film, c'est un vieil homme. Et je le découvre ensuite dans les films de Duvivier. Et je trouve qu'il. Voilà, j'étais fasciné par lui quand j'étais gamin.
Et voilà. Donc, dans ce film de Claude Berry, où il est. Truculent, enfin voilà, c'est
il accueille un petit enfant, voilà. Lui est un ancien poilu, pétainiste, il y a le portrait du maréchal
et le petit enfant est juif.
Et le petit enfant est juif puisque son père c'est Charles Denner dans le film. Et je pense que c'est un film un peu autobiographique de Claude Berry et c'est très touchant. Je l'ai revu avec ma fille il y a je crois un mois et juste avant qu'on me demande de faire une liste et effectivement il est formidable ce film parce que c'est juste la rencontre, c'est juste deux comédiens, l'enfant et ça s'appelle Le Vieil Homme et l'Enfant pour une raison et c'est juste ça et ça raconte non seulement un tournant de l'histoire de la France, un tournant de la société française vraiment. Je trouve que c'est vraiment un grand film.
Et il y a une scène de repas familial un peu à la Renoir, un peu genre une partie de campagne, et dans lequel, effectivement, eh bien, le grand-père Michel Simon va entonner ce « Vive le Pinard ».
Les couteaux à droite, les fourchettes à gauche, hein ? Alors, petit cochon, tu me le dis,
hein ? Non, manquera pas de munitions. Si on s'en jetait un petit coup derrière la cravate, hein, on va de passer aux choses sérieuses.
Eh, hein, vas-y, papa, où l'on lui s'égala, hein ?
Bravo, putain. Encore une que les boches n'auront pas.
Mais toi aussi, bien sûr, entre hommes, viens. Allez, à tes amours.
À tes amours.
À tes amours.
2 heures plus tard, on avait bien arrosé mes amours. L'anniversaire de la citation de Pépé pour sa blessure dans le dos.
Je vais vous interpréter Vive le Pinard. Chanson militaire. Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est Vive le Pinard. C'est un réchauffe, là où ce que ça passe. Vas-y, Pinard, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard. Attention. Aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, jusqu'à la mort. Aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine. Ça n'empêche pas d'adorer le Pinard. 1, 2, le Pinard, c'est la Pinard. Vas-y, Pinard, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard.
Vive le Pinard, chantait Michel Simon dans Le Vieil Homme et l'Enfant de Claude Berry en 1967. C'était le choix de notre programmateur musical du jour, Thomas Bideguin. Nous nous transportons maintenant en 1956 pour un chef-d'œuvre unique de l'histoire du cinéma. Je dis unique parce qu'il a été réalisé par un immense acteur qui a réalisé ce film-là. Et puis après, il n'a plus jamais touché une caméra de sa vie. Et il a juste fait un chef-d'œuvre. Voilà. C'est Charles Laughton.
Exactement. Et moi, c'est à cause de Charles, du vieux Charles Laughton, que je fais du cinéma.
Non,
j'appelle Charles. Voilà. Non, un jour, je dois avoir 12 ans et je vais au cinéma. Je vais à l'Action Christine. Je vois, La Nuit du Chasseur. Et je le vois à 14h, puis à 16h, puis à 18h. Et c'était le cinéma permanent. Il y a quelque chose de très impressionnant dans La Nuit du Chasseur. Bon, et puis, j'ai l'impression, à chaque fois, vous savez, quand on présente un film, notamment les films qu'on a écrits avec Jacques, on dit à chaque fois, mais alors, d'où vient un peu l'inspiration? Et à chaque fois, ça vient un peu de La Nuit du Chasseur. Vous voyez que ça marche. Effectivement, il y a un peu de ça dans De Rouillé d'Os, sur ces films de foire, comme ça, les films de la crise. Il y a un peu de ça dans bien sûr, dans les Frères Sisters.
Dans les Frères Sisters, beaucoup.
Voilà,
le western, tout ça. Les
western,
premières
la
images
nature,
dans la nuit nocturne, tout ça, sont
exactement. Et de toute façon, c'est immanquable. Et puis, après, il y a Robert Mitchum, qui est un grand chanteur, qui a une voix magnifique. Charles Laughton utilise cette chanson plusieurs moments dans le film. Et surtout, il fait un truc, c'est que Robert Mitchum va la chanter, il va faire « Leaning, Leaning ». Et puis, on a Lillian Gish à la fin, qui, elle, veille sur les enfants. Elle ramasse les enfants perdus d'un monde en perdition. Et elle a son fusil posé sur les genoux. Et elle chante « Leaning on Jesus ». Et tout se retrouve là. Juste une chanson permet de séparer deux personnages. Il y a quelque chose de formidable. Et il chante cette chanson. Et puis, le petit gamin dans la grange dit « Mais il dort jamais ». Et il a peur, il poursuit deux enfants à travers une Amérique en récession, c'est magnifique.
Impeccablement introduit par Thomas Bideguin, l'extrait de La Nuit du Chasseur.
Just march yourself yonder to your horse, mister.
All right, but you haven't heard the last of Harry Powell yet. The Lord God Jehovah will guide my hand in vengeance. You whores of Babylon, I'll be back. When it's dark.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms.
Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms.
Shame on you, Ruby, wandering around the house after that mad dog of a man. Ruby, go get the children out of bed and bring them down here.
Voilà, Learning.
Merci pour la VO.
Merci de ce choix d'abord, parce qu'effectivement, il est très, très, très important de cette chanson contre-chantée par deux personnages que tout oppose et qui s'opposent à travers cette chanson, avec cette petite mention de, comme vous le disiez, de Jésus qui fait toute la différence entre leurs deux discours.
C'est magnifique. Et puis cette voix de Robert Mitchum, fabuleuse.
Vous signaliez d'ailleurs l'existence d'un superbe coffret chez Carlotta, si je ne m'abuse,
On voit les rushs du film. Voit les rushs, ils sont mis dans l'ordre, c'est les prix cerclés, les meilleurs, et il n'en a pas fait des masses, parce qu'il a tourné le film, je crois, en 30 35 jours. Et donc, on les voit mises dans l'ordre et on voit Charlton diriger. Charlton qui est un acteur mais merveilleux, il faut le voir à Notre-Dame de Paris, hein, où il n'y a que 10% des dons, on vient de la prendre. Mais donc, ouais, il est fabuleux. Et on voit, alors, avec Robert Mitchum, il appelle Bob, il est vraiment sympa. Et puis, avec Shelley Winters, c'est de la torture. C'est terrible. Enfin, voilà. C'est un grand moment, ce coffret, là.
Alors, ce contre-champ de deux chansons, il est un peu prolongé. Tenez par votre nouveau choix. Parce que, dans Réservoir Dogs de Quentin Tarantino, il y a une scène abominable de torture à l'oreille, on est d'accord. Mais... Et alors, il a un choix musical que je vous laisse commenter, introduire. Alors,
il choisit cette chanson de Steeler Wheel, qui est un groupe pas très connu, mais qui était le groupe, en fait, de Rafferty, qui va être très connu ensuite parce qu'il enregistre des chansons genre Baker Street, un peu tarte dans les années 80. Mais,
la chanson s'appelle Stuck in the Middle of with you.
Exactement. Et là, elle est introduite par cet acteur. Ça y est, bon, je vais pas m'en souvenir, mais peu importe, il est en train de torturer un type. Et ce qui se passe là dans Reservoir Dogs, pendant qu'il torture, il dit, est-ce que tu connais la radio des années 70 et les hits de je sais pas quoi? Et il met la radio, et puis là, il va commencer à danser avec une lame de rasoir dans la main, et puis voilà, il va s'intéresser à l'oreille de ce type. Mais quand le film vient, il y a dans les années, au début des années 90, une remontée des polars. Il y a les frères Cohen qui arrivent, il y a des films, je sais pas, Red Rock West, des trucs comme ça, même Bound, des Wachowski qui arrivent. Il y a une vraie remontée des polars. Moi, j'ai l'âge d'aller énormément au cinéma à ce moment-là, et on suit ça. Et quand Réservoir Dogs sort, c'est formidable. Il fait un film 5 gars dans un hangar. C'est vraiment, je vais le voir 3 fois. Ouais. C'était formidable. On se dit, tiens, il y a une façon de revenir au cinéma de genre, dans une économie. C'est vraiment un film vraiment intéressant, vraiment pensé. Et avec déjà, dans l'autocitation, puisqu'on est déjà vraiment dans du postmoderne, puisqu'on est dans les années 90, qu'on écoute de la musique des années 70, et que tous les gars sont habillés comme les Blues Brothers. Mais il y a quelque chose de formidable quand ça arrive, Reservoir Dogs.
Avant d'écouter cette chanson qui fait tant de bien dans une scène qui fait tant de mal, on va entendre aussi la voix de Quentin Tarantino en répétition.
Do you want it to be one long sentence again?
Yeah, But I'll tell you what, let's do one as one long sentence, and let's do one like the way you just did it, where you're all like right. Reading it, Joe Egan and who?
Right. Joe Egan and Jerry Rafferty were a duo known as Steeler's Wheel. When they recorded this Dylan-esque pop bubblegum favorite.
Pop is synonymous with trash, and bubblegum is synonymous with shit.
Joe Egan and Jerry Rafferty were a duo known as Steeler's Wheel when they recorded this Dylan-esque pop bubblegum favorite from April of 1974.
Well, I don't. Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control. Yeah, I'm all over the place. To the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing.
the Middle with You par les Steelers Wheel dans Reservoir Dogs.
Ciné qui chante.
La 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 la.
Sur France Inter.
Ça, c'est de la virgule.
Merci, merci. Mais oui, c'est une spéciale dédicace à notre réalisatrice et à toute l'équipe qui prépare ces virgules avec le bonheur qu'on connaît. Claude Lelouch, 1976, il signe avec Le Bon et les Méchants un film sur l'occupation.
Oui, un film avec Jacques Dutronc, Jacques Villeret, Marlène Jobert.
Brigitte Fossé et Bruno Kremer.
Tout n'est pas louche, c'est Claude Lelouch.
Il fait
quelques films formidables, vraiment. Il fait des tas de films merveilleux, mais il en fait quelques-uns qui sont fabuleux. Et figurez-vous que c'est le premier 45 tours que j'achète, à la sortie. Je sais pas, 76, j'ai 10 ans. J'ai un petit parlophone. Excusez-moi de parler un peu de moi.
On est là pour vous écouter.
Merci, docteur. J'achète ça et je découvre. Dutronc. Vous savez, il y a les Beatles et Rolling Stones. Il y a Gainsbourg et Dutronc, c'est pareil. Alors, vous préférez quoi? Moi, c'est Dutronc. Et d'abord, parce qu'il n'a jamais reculé devant la facilité.
C'est une jolie définition.
Et puis... Puis il y a quelque chose, moi j'apprends la vie avec Jacques Dutronc. Je voulais être lui à un moment, puis ça m'est passé, même physiquement. Mais La balade du bon et des méchants, les paroles sont de Labro.
Philippe Labro, c'est étonnant, hein. C'est pas du Lanzmann, hein, une fois.
Exactement, les paroles sont de Labro, elles sont la très émouvantes. Je ne savais rien, ne connaissais rien, je prenais la vie comme elle vient. Moi j'ai 10 ans, je me dis ça s'annonce. Et puis Le Bon et les Méchants, un film sur, effectivement, un film en sépia,
c'est vrai.
Effectivement, sur l'entre-deux, entre les voyous d'avant-guerre, ceux d'après-guerre.
La cagoule, Bonnie Lafont.
Les trucs, exactement. C'est vraiment un film remarquable. Et puis Dutronc, même en sépia, il a des mirettes, il a des yeux qui sont formidables. Et donc, je découvre ça. Et Philippe Labro, je voulais dire un mot sur Philippe.
Mais dites un mot sur Philippe Labro, vous pouvez tout dire ici.
Eh bien, Philippe Labro aussi fait quelques trucs qui sont quand même vraiment pas mal.
Les films, vous voulez dire?
Les films, appelons ça comme ça.
Ouais, appelons ça comme ça.
Il fait L'Héritier. Vous vous souvenez de L'Héritier?
Oui,
ça aussi, c'est une époque.
Avec Belmondo.
Belmondo et Denner.
Et Denner.
Et Denner, et qui joue JJSS, qui joue un truc comme ça, la nouvelle société, un truc. C'est vraiment.
Très connoté années 70.
Oh, hein. Terrible.
Giscard, tout ça.
Voilà. Absolument. Bon. Giscard, comme un grand de modernité, vous voyez.
Mais bien entendu, nous sommes d'accord. On écoute tout de suite La Balade du Bon et des Méchants par Jacques Dutronc avec. Juste avant un extrait, ça se passe dans une salle de danse et on essaye d'apprendre à Villeret de danser le slow, c'est pas gagné.
Le slow, c'est la première danse qu'on apprend. Et par effet, c'est la dernière qu'on utilise par conclusion. Parce que le slow, on l'apprend, c'est parce que c'est celle qui va vous permettre de choisir. C'est celle que vous avez choisie dans les trois premières minutes là-bas. C'est celle qui va rester auprès de vous toute une vie. Alors, le slow a une technique très, très facile. Et elle vous permet aussi d'écouter le cœur de votre partenaire.
Je ne savais rien, ne connaissais rien. Je prenais la vie comme elle vient. J'ai pris ton amour comme vient le jour sur un air de slow au balajo. C'était l'avant-guerre, parfum de naguère, en couleur sépia ou noir et blanc. C'était l'insouciance, parfum d'innocence, il n'y avait ni bon ni méchant. Dis-ce que tu m'aimes, bien sûr que je t'aime, bien sûr que je t'aime, quelle question sur les photos de ma jeunesse, une étrange tendresse, l'amour en noir et blanc. Aujourd'hui je sais, Aujourd'hui j'ai fait tout ce que les hommes peuvent faire. Et l'on m'a trahi, et je t'ai trahi sur un air de slow au bajo. Car c'était la guerre, parfum de mystère, avec dans la bouche goût de sang. Puis vient l'après-guerre, aux couleurs amères, c'est fini le temps des innocents. Dis, est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que je t'aime? Est-ce que nous nous aimons comme avant? Quand nous partions en promenade, en chantant la balade du bon et
sur la playlist de Thomas Bilguin qui était en train de le chanter, La balade du bon et des méchants par Jacques Dutronc, nous le disions, parole Philippe Labro, musique Francis Lay, du film Le bon et les méchants que Claude Lelouch avait réalisé en 1976. Le 24 juillet prochain, Thomas Bilguin ressortira sur les écrans français dans une, à la fois d'ailleurs dans la version, dans la director's cut, comme on dit en, en bon français, et puis dans la version qui était sortie sur les écrans, un film de Richard Kelly qui s'appelle
Donnie Darko. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. C'est le premier film de Richard Kelly. Richard Kelly, c'est quand même un réalisateur un peu curieux parce qu'ensuite, il disparaît. Donc, il fait ce film. Alors, c'est pas Charlton. Et il fait un film après terrible qui s'appelle Southland Tales. Ok, on comprend rien. Qui va à Cannes. Le jour de la, qui ressort 8 mois plus tard avec une demi-heure en moins. Enfin bon. Un film un peu terrible. Et puis, un dernier film qui s'appelait The Box. C'était un peu comme un épisode de la Twilight Zone. Un petit truc comme ça. En 2009, je crois qu'il fait ça, et puis après il disparaît un peu des écrans. Mais il fait avec Donnie Darko un film sur l'adolescence qui est remarquable sur voilà, et puis
avec cet ado qui a pour ami imaginaire un lapin géant.
Exactement.
Et ce lapin va lui prédire.
S'appelle Frank. Voilà, le lapin s'appelle Frank et c'est Jake Gyllenhaal et sa sœur joue dedans aussi, Maggie Gyllenhaal. Ça se passe en 88. La première phrase du film, c'est je crois que je vais voter pour Dukakis. Rien que ça, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, c'est un film sur l'adolescence et il y a une chanson dans ce film que je vais annoncer à votre place. Mais et si. Qui s'appelle qui est une reprise en fait, une reprise d'un hit de Tears for Fears, je crois. Et voilà, qui était rythmé avec une basse, vraiment avec une grosse basse métallique comme on faisait dans les années 80. Et puis là, en 2002, elle est reprise par Gary Jules. Oui. Il y a un clip très un très beau clip de cette chanson qui est fait par un réalisateur français formidable. Et mais donc voilà, mais cette chanson, c'est vraiment une chanson sur l'adolescence, dans un film sur l'adolescence. Et j'ai une fille qui a 14 ans qui joue ça au piano formidablement. Et donc, comme je l'entends tout le temps en ce moment, je veux bien qu'on la réécoute.
Mais on va l'écouter tout de suite. Spécial dédicace
tout de suite,
pour
Mad World. Spécial dédicace pour toi, Elsa. Mad World de Gary Jules dans Donnie Darko.
Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world.
mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad.
Un accident horrible. Mon voisin. Il a été tué.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Un réacteur d'avion s'est écrasé.
Il s'appelait comment?
Donnie. Donnie Darko.
Oh là là. C'est évidemment Thomas Bilguin qui va désannoncer parce qu'il a pris les commandes de l'émission. Donc nous écoutions.
Eh bien, nous écoutions Mad World par Gary Jules. Ici, dans la grande radio des années 70, avec Laurent Delmas, il est votre ami. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Laurent?
Eh bien, nous allons continuer votre balade musicale, Thomas Bilguin, avec un titre tout à fait singulier qu'on ne peut entendre dans Moi, y en a vouloir des sous, ah, oui, de Jean-Yann en 1973. Et il a au moins un point commun avec Jacques Demy, Jean-Yann, c'est que c'est le seul, cinéaste français à avoir fait chanter des CRS. Dans une chambre en ville, Jacques Demy fait chanter des CRS. Et bien, dans Moyen à voir les sous, il les fait également chanter à travers ce monument qui s'appelle la marche des CRS. Vous nous en dites un peu plus?
Oui, alors c'est, il y a un peu à boire et à manger, comme on sait chez notre ami Jean-Yann, comme cinéaste. Mais moi, j'aime beaucoup Moyen à voir les sous. Il y a vraiment un formidable scénario. Et c'est un film qu'on ne trouve pas en DVD. On peut le voir sur YouTube.
C'est vrai.
Enfin, voilà, c'est des trucs un peu compliqués.
Contrairement à Tout le monde dit le beau, tout le monde dit les gens.
Voilà, qu'on voit partout, ouais. Et donc il y a beaucoup vieilli. Je trouve que celui-là a un truc qui est pas mal sur la société. Alors, et puis c'est vraiment une époque. C'est un film qui est de 73. C'est vraiment une époque avec des gens qui faisaient la vie, qui en avaient tellement rien à foutre. C'est impressionnant quand on voit maintenant comme on est sollicité pour avoir une conscience, pour avoir des gens vraiment qui n'en avaient pas. Et je pense qu'après ça sera après eux le déluge. Il y a vraiment un truc comme ça. Mais en même temps, il y a un truc assez marrant après l'année qu'on vient de vivre. C'est au printemps quand vient le mois de mai, quand fleurit le muguet, tremble le patronat. Il y a des paroles assez marrantes et c'est bien de rire parfois.
Les paroles sont de Jean-Yann qui l'interprète aussi. La musique était de Michel Magne. On va écouter d'abord un extrait dans lequel on va entendre la voix de Jean-Yann qui joue, tenez-vous bien, le rôle de Benoît le Pape et encore mieux, Paul Prébois en CRS.
Ah, tout va bien, Louise. L'entrée est pas tard. Ah, monsieur le pape.
Ça va?
Ça va. Ça ira mieux quand je serai à la retraite.
Mais dites donc, c'est pas pour longtemps, parce que c'est pas 65 ans chez vous.
Eh bien, heureusement, dites, parce qu'avec tout ce qu'on se tape en ce moment, on vieillit avant l'âge. Hein. Remarquez, quand je dis avec tout ce qu'on se tape, c'est surtout nous qui tapons.
De sécu, de sécu, de sécu.
C'est grâce ou à cause ou avec Thomas Bidguin que nous écoutions la marche des CRS dans Moi, il y a la vouloir des sous de Jean-Yann.
Ciné qui chante.
Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose.
Sur France Inter.
Thomas Bidguin, votre nouveau choix s'est porté sur, et on en est ravis, sur un film avec les Marx Brothers, ouais. De Norman Z. MacLeod, on le cite, mais enfin, il n'a oui. pas, le réalisateur des films des Marx n'a pas grande importance, c'est un film de 1934. C'est
sauf plus... Léo McCarré.
Sauf Léo McCarré, qui est un grand réalisateur par ailleurs. Vous avez raison, il faut rendre à Léo ce...
Et qui réalise un extravagant Mr. Ruggles, dont on parlera une autre fois.
Volontiers, voilà. Quand vous voulez. Cette fois, nous parlons de Plumes de Cheval, c'est le titre français du film des Marx. Et comme bien souvent, ils chantent.
Mais oui, ils chantent.
Ils chantent, les frères, tous les frères chantent.
Tous les frères chante, sauf Harpo.
Sauf Harpo qui s'y
bien voilà. Oui. Mais il y a quelque chose de magnifique et de très touchant dans le falsetto de Groucho Marx. Il fait, quand il a 90 ans, toute une soirée à Carnegie Hall, juste lui avec un pianiste, où il raconte des anecdotes. C'est magnifique. Si c'était dans un film, on l'aurait passé aujourd'hui. Et il rechante, effectivement, Everyone Say I Love You. Mais il dit, voilà, Lydia de Tattoo Lady, c'est que des chansons vraiment folles. Et il commence comme ça. Il commence les Marx Brothers en 1905. Ils font un trio qui s'appelle The Three Nightingales. Alors, si vous vous lancez sur Marx Brothers, là, non, parce que c'est une génération formidable. C'est des gars qui grandissent à Brooklyn et puis qui traversent et qui vont. Mais les Warner, les frères Warner, avec qui ils ont été en procès à un moment, et parce qu'ils avaient utilisé Casablanca, le nom Casablanca. Ouais. Et il y a une lettre de Groucho, il dit, mais vous, vous avez utilisé Brothers, alors que nous, on était les Marx Brothers, vous, avant que vous soyez les Warner Brothers. Mais c'est regarde, une génération de gars qui grandit à Brooklyn, vraiment une semi misère et qui se retrouve patron de studio ou gagman ou et tout ça en ayant passé par le vaudeville. Quand les Marx Brothers arrivent, et c'est un de leurs, vraiment Plume de Cheval, c'est un de leurs premiers films en 34, ils ont déjà 40 ans. Et donc on a mal à imaginer ce que c'était que les Marx Brothers avant, quand ils faisaient au fond du vaudeville. Plus personne veut passer avec eux parce qu'ils sont complètement fous. Même W.C. Fields, voilà, dit non, je refuse parce que ils font des courses de chevaux dans les hôtels. Mais ils sont fous. Mais vraiment, Léo McCarré dit qu'il veut plus. Voilà, il veut plus jamais faire de films avec eux parce qu'ils se mettent à poil, parce que d'abord on n'arrive pas à les réunir les quatre dans la même pièce. Il en manque toujours un. Et donc il s'arrache les cheveux.
feu. Thalberg a le même truc. Il s'enferme dans le bureau de Thalberg. Ils allument la cheminée. Ils font griller des trucs. Ils se mettent à poil parce qu'il arrive en retard au rendez-vous. Enfin, c'est vraiment, c'est une époque folle. Et donc voilà, il y a quelque chose à la fois de fou et de très émouvant chez Groucho quand il chante avec ses petits falsettos. C'est des très jolies petites chansons comme celle que nous allons écouter maintenant.
Alors avec un petit pas de côté parce que dans ce film tous la chantent mais à différents moments. Et là, on va entendre Zeppo essentiellement avec Harpo qui sifflote dans cette chanson Everyone Says I Love You.
You know, you're interfering with my studies.
He must think I'm terrible.
But I think you're wonderful. You're beautiful.
Are you making love to me?
Why not?
Everyone says I love you. The cop on the corner and the burglar too. The preacher in the pulpit and the man in the pew says I love you. Everyone, no matter who. The folks over 80 and the kid of two. The captain and the sailor and the rest of the crew says I love you. There are only 8 little letters in this phrase you'll find. But they mean a lot more than all the other words combined. Everywhere, the whole world through. The king in the palace and the peasant too. The tiger in the jungle and the monk in the zoo says, I love you.
Thomas Bilguin, vous revoyez régulièrement des films des Marx ?
Oui, ah, vraiment, très souvent. Et après, en même temps, c'est un signe de grande dépression, souvent. Mais non, c'est vrai, mais je les revois souvent, j'adore ça. Il y a des scènes formidables. Il y a un entrain là-dedans, ouais. Une vie qui est magnifique.
Et pour un scénariste, c'est des petits oignons.
C'est des scènes qui sont vraiment très très drôles. Et puis des jeux de mots qui sont fous. Voilà, le gars part en Uruguay, il dit « You go Uruguay and I go mine ». Et
oui,
puis de sérieux.
On ne s'en lasse pas.
On ne s'en lasse pas.
Mais non, en 2014, vous avez signé avec Bertrand Bonello le scénario d'un film sur Saint-Laurent.
Oui, c'est une rencontre avec Bertrand Bonello qui a été formidable, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, profondément, et qui m'a beaucoup appris sur la musique. Bertrand Bonello compose la musique, il écrit tous ses films, à l'exception de Saint-Laurent, je crois qu'il a tous écrit tout seul. Donc celui-là, j'ai eu la chance de l'écrire avec lui. Il compose la musique de ses films, et puis il y a des musiques, de temps en temps, ils vont choisir. Et j'ai appris un truc avec lui, c'est que la musique, il faut qu'elle vienne très tôt. Sur un film.
C'est-à-dire, vous voulez dire qu'on ait les choix musicaux.
Oui, après chacun fait à ses trucs. Mais vous voyez, Balamendi avec Lynch, la musique, il fait la musique au moment du scénario, avant qu'on tourne le film. Mais vous avez ce grand réalisateur. Voilà, c'est le problème de faire de la radio avec quelqu'un qui a Alzheimer. Mais ce grand réalisateur qui a fait La Strada, vous voyez.
Fellini, Nino Rota en face de lui.
Avec Nino Rota, et ben c'était même avant le scénario. Il s'asseyait devant le piano, il racontait l'histoire, et puis Rota jouait. Donc on peut avoir de la musique très très tôt. Jacques fait quelqu'un qui va plutôt aller chercher de la musique. Jacques Audiard, pardon, va la voir au moment du tournage. Une longue collaboration avec Alexandre Desplat.
C'est vrai.
Ou parfois. Après le film. Mais donc, c'est vraiment une réflexion que Bertrand va mener sur la musique et très très tôt au moment du film, quand il écrit dans le scénario et là, tel morceau de musique, c'est qu'il a les droits, c'est qu'il sait. Donc, j'ai beaucoup appris avec Bertrand Bonello, qui est un grand réalisateur.
On écrit en musique, donc d'une certaine façon, vous écoutez ces morceaux-là quand vous écrivez.
On écoute les morceaux, bien sûr, et puis on s'échange beaucoup de morceaux quand on écrit. Mais ça, c'est toujours entre scénariste et réalisateur, on s'échange beaucoup de choses, beaucoup de films, beaucoup de morceaux de musique, beaucoup de bouquins, beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos, des tas des images comme ça qui traversent et puis qui pourraient rentrer un peu dans la boîte à chaussures que va être le film. Et c'est un vrai échange au moment de l'écriture, avec Bertrand et effectivement. effectivement beaucoup de musique. Puis on a exactement le même âge avec Bertrand. Il a été musicien, on le voit dans des clips. Je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder les clips de, je sais pas qui, bon, enfin voilà, dans des clips des années 80 où il est magnifique. Et il a fait beaucoup de tournées, il joue du piano merveilleusement bien. Et donc voilà, c'est une vraie façon d'orienter un film et de l'imaginer comme une œuvre musicale.
Vous n'auriez pas une petite envie de comédie musicale par hasard, Thomas Bidguin, avec cette attention portée à la musique ?
Si, alors moi j'aimerais beaucoup ça. On a eu plusieurs, avec Jacques Audiard, on a eu plusieurs envies de comédie musicale. Et je crois que là, il est en train de réaliser son rêve. Voilà.
C'est un scoop, merci. On va suivre ça attentivement.
Allez-y.
Allons-y. Nous écoutons Lee Fields dans la Saint-Laurent de Bertrand Bonello en 2014.
Yves, bouge le bras s'il te plaît pour montrer que tu es vivant. Entrez.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous voyez ?
Merci Thomas Bidguin d'avoir si bien joué le jeu de la programmation musicale. Oui, il est temps de nous quitter, hélas. On vous retrouve à la rentrée sur Inter, auprès de la bande à Jupiter, bien sûr. Et puis on signale à nos auditeurs que c'est le 9 octobre prochain que sortira en France un film d'animation italien, la fameuse invasion des ours en Sicile, dont vous avez co-signé le scénario.
Et je joue dedans.
Et vous jouez dedans un ours, bien sûr, adapté évidemment de Buzzati. Cette émission a été impeccablement préparée par Mathilde Verfailly et Margot Page avec Hilario Mathias d'Acosta. Elle a été réalisée avec brio par Sonia Leglen et avec également Tiffany Battistel. Merci enfin à Thierry Dupin, notre conseiller en bonne note. On reste en contact via le podcast et France Inter, assurément. On se retrouve demain, même lieu, même heure, avec une nouvelle programmatrice musicale. Oui, mais qui ? Eh bien, un disque sonore.
Chacun fait ce qui lui plaît.
Mon Dieu, je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir.
Tout le monde a trouvé dans le studio, y compris évidemment Frédéric Sigrist. Vous allez nous parler d'un petit chanteur dans Blockbuster
qui
dans
gagne,
quelques minutes.
Qui gagne à être connu en fait. C'est-à-dire que comme on a fait Queen, on a fait le King of Pop Michael Jackson, bah c'était normal de faire Prince.
Merci Frédéric. À tout de suite Blockbuster.